petite note du voisin. Une émission sur l'écoute de la musique par la pratique amateur et de ses écoles de musique. Diffusion le troisième vendredi du mois à 14h et rediffusion le mercredi à midi sur les ondes de RBA.
Amis musiciennes et musiciens amateurs, bonjour. Notre émission va se porter sur l'improvisation. Et j'ai invité deux collègues musiciens qui nous proposeront leur vision sur ce genre musical par des échanges, mais vous aurez aussi la chance d'écouter une interprétation par nos soins de trois morceaux que, je l'espère, vous permettront de découvrir cet univers. Alors, je présente d'abord mes amis. Donc, j'ai Clément Perronnet, bonjour.
Bonjour.
Et j'ai aussi Auriane Monseigny, bonjour.
Bonjour.
Alors, je précise pour nos auditeurs que nous sommes chez Auriane, qui nous a invités chez lui pour cet enregistrement de cette émission. Et donc, je remercie pour son accueil et pour le cadre. Voilà, donc merci, Auriane. Alors, déjà, pour commencer, on va faire une petite présentation de nos invités. Clément, pour commencer, pourquoi la musique
Pourquoi la musique? Ah ben je sais pas, en fait j'ai commencé tout petit parce que je crois que j'étais attiré par le piano et puis c'est vrai que la musique, une fois qu'on est piqué, on a du mal à s'arrêter et puis ça a répondu à d'autres moments de ma vie, à des nécessités, c'est vrai que la musique ça occupe quoi, on a besoin de travailler, on a besoin d'étudier, de s'exercer et ça correspondait à mon caractère.
Auriane?
Bien, moi, la musique, c'est un peu la même chose. C'était, j'avais pas la télévision, j'avais pas de jeux vidéo, de choses comme ça. Mais on avait des livres à la maison, des instruments. Et en fait, c'était un peu mon moyen, mon mode aussi de m'échapper, de me raconter des histoires, tout ça. Donc, la musique, avant tout, c'était un moyen de me raconter des histoires et d'écouter des histoires produites par d'autres. Et voilà. Et donc la musique ne m'a pas quitté depuis parce que c'est toujours plaisant de pouvoir, suivre ses émotions, de pouvoir transmettre ses émotions, transmettre ses idées via la musique.
D'accord. On va passer directement à notre thème principal donc, de notre émission qui est l'improvisation. Un peu d'histoire, l'improvisation, depuis quand?
Moi je pense que l'improvisation existe avec la musique. Il me semble déjà je pense que dans l'histoire toute la musique n'a pas été écrite, donc elle a dû être transmise à l'oral et avec l'oral des transformations, avec l'oralité des transformations s'opèrent, déjà avec l'écrit il y a des transformations qui s'opèrent, je me dis avec l'oral, la transmission orale de génération en génération il doit y avoir des modifications, ces modifications sont improvisées et souvent l'improvisation ça répond à la nécessité du moment. C'est, par exemple, je sais pas, j'imagine que un prêtre a des nécessités d'improvisation sur ses musiques qui sont différentes d'un musicien de jazz ou d'un chaman dans une tribu indienne. Et donc moi, à mon avis, l'improvisation a toujours existé avec la musique. Et après, c'est les règles d'improvisation qui s'établissent avec la culture. Voilà, à mon avis.
Auriane.
En fait, je pense qu'il y a une analogie assez forte entre le langage, le parler et l'improvisation. Dans le sens où, en fait, là, on est en train de parler et je ne sais pas exactement à l'avance quels mots mon esprit va garder, sélectionner, transmettre. Et du coup, il y a une sorte d'improvisation naturelle qu'on fait tout le monde, tous les jours, tout le temps, dès le moment où on prend la parole. Et donc, en fait, ce qui ne serait pas l'improvisation, ça serait lire un texte. Ça serait que les choses soient construites à l'avance et qu'on ait juste à les réciter. Sauf que du coup, dans le langage, c'est pas comme ça. On conçoit au fur et à mesure que les idées se développent dans notre esprit, la parole, le verbe sort et se modifie, se mélange avec la pensée des autres, etc. Donc finalement, si on a commencé par faire de la musique ou si on a commencé par parler, dans tous les cas, les deux ont toujours cohabité ensemble. Et sûrement que les premières, justement les premières musiques, les premières formulations musicales qui sont souvent par le chant, hein, le chant, la voix, c'est une manière de faire de la musique. Et donc je pense qu'en premier, avant toute chose, la musique était improvisée, oui, effectivement.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est depuis l'ère des temps, est-ce que c'est un élément d'innovation, est-ce que l'improvisation, est-ce que ça a permis d'innover sur l'écriture, le style, le genre musical, la rythmique, les choses comme ça. C'est-à-dire que est-ce que les gens, quand ils se sont mis à chanter, donc Clément nous disait qu'il y avait la voix qui était en premier lieu, on va dire dans le temps, que les gens chantaient ou disaient des choses. Est-ce que ça a permis, en faisant ça, d'improviser, de construire des éléments rythmiques, des éléments mélodiques, des éléments d'autres choses, quoi, dans la musique?
Ben, en fait, je pense que du coup, il y a, en suivant cette analogie avec le langage, en fait, une mutation, une façon de dire, une façon de parler, va se changer parce qu'une façon de dire les choses peut faire rire ou peut faire sourire ou peut te transmettre des émotions. Donc il y a toujours des mutations dans le langage, même encore aujourd'hui. On voit bien que d'une génération à l'autre, il y a des façons de dire, des choses qui changent. Et en fait, ces mutations, elles ressemblent assez aux mutations aussi qu'on trouve dans la nature naturellement, qui apparaissent. Tiens, telle plante, tel arbre va faire une fleur un peu plus jaune qu'une autre, etc. Et donc ces mutations-là, c'est une innovation, c'est quelque chose qui n'a pas été avant commun et qui à un moment donné devient commun. Donc je pense qu'au même titre, dans la nature, il y a des sélections comme ça, des choses qui se font, des manières de faire, de transmettre quelque chose qui sont plus effectifs que d'autres. Et du coup, il y a des mutations qui se font, des innovations qui se font naturellement et qui sont gardées ou non, comme dans la nature, avec la sélection naturelle. Donc il y a peut-être dans la musique une sorte de sélection naturelle des sons, des rythmes qui apparaissent au même titre dans tout élément naturel, dans tout élément de langage ou de science. Donc je vois les choses assez comme ça, en fait. Il y a vraiment un lien que la musique, en fait, nous donne apparent des choses qui se passent naturellement ailleurs dans la nature.
D'accord. Clément,
sans doute que l'improvisation innove en musique, mais je ne pense pas que ce soit obligatoire, parce que l'improvisation elle-même répond à des règles. Innover, finalement, c'est transgresser des règles. Alors, évidemment, quand on improvise, c'est une sorte d'écriture instantanée, et il peut se trouver que par erreur ou par... je sais pas, on transgresse une règle, par erreur ou par imagination, tout simplement, qu'on puisse transgresser une règle. Le risque de transgresser une règle, c'est de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, parce que une règle est culturelle, une règle n'est jamais arbitraire, et une règle, quand on la vit, quand on l'apprend, elle paraît gravé dans le marbre, mais plus on étudie la musique, plus on se rend compte qu'il y a une multitude de règles qui sont en constante évolution, comme la langue française. Il y a bien des règles de grammaire et de conjugaison qui sont strictes, mais plus on étudie la chose, plus on comprend qu'au cours des temps, la langue s'est modifiée. Donc, sans doute, l'improvisation favorise l'innovation, mais pas plus, pas moins que l'écriture ou la lecture. Je pense que finalement, improviser, c'est d'écrire en instantané.
D'accord. Dans l'improvisation, ça se trouve dans le monde entier. On voit dans d'autres pays que ça improvise aussi, ou c'est purement standard à la musique occidentale.
Je pense que l'improvisation vraiment est première. C'est-à-dire que on sait bien que l'écriture est en fait arrivée assez tardivement dans l'histoire de l'humanité. Elle est souvent liée à ce qu'on appelle en fait la civilisation. On a même tendance à décrire la civilisation comme une espèce, une entité qui a réussi à passer par l'écriture. Donc avant qu'il y ait toute cette capacité à écrire, à figer finalement, à figer le discours, à figer la musique, à figer les choses, avant les choses sont justement fluctuantes. Elles sont en fait le support de la mémoire, c'est l'humain. Donc c'est assez tardif que le support de la mémoire devienne l'os gravé, aujourd'hui la clé USB, le CD, etc. Donc à la base, le support mémoire étant humain, l'humain étant fluctuant, étant sujet en fait à changer, à reformuler son discours selon la saison, selon ses émotions, selon même le jour, la nuit, enfin les choses ne se transmettent pas et ne se retranscrivent pas de la même manière. Aussi, selon qu'on soit un individu, une femme, un homme, un enfant, en fait, c'est pareil, les choses ne sont pas transmises pareil. Selon aussi que la langue change, selon qu'on soit dans un désert ou qu'on soit proche d'un lac, sûrement les choses ne se disent pas pareil, les références ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui est dans un désert, il n'a pas forcément d'arbres partout autour de lui, donc il ne peut pas prendre l'arbre, par exemple, pour comparer les choses. Donc toute possibilité, ce champ des possibles pour raconter les choses, en fait, c'est ça l'improvisation, en fait. C'est dire les choses selon le moment, selon le cadre, selon le milieu. J'ai un peu perdu le fil. La question, c'était...
Non, c'était dans le monde. Si on trouvait que d'autres civilisations utilisaient l'improvisation, tout simplement, mais c'était bien parti sur une autre explication, et on voyait qu'il y avait le rapport avec la nature, les choses comme ça. Donc, c'est au contraire, c'est très intéressant. On peut continuer sur ce domaine. Historiquement parlant, on a constaté que le baroque adopte l'improvisation dans les cadences des concertos, par exemple, ou dans la basse continue. Et bien entendu, c'est là qu'on découvre aussi les premiers chiffrages d'accords sur les basses continues. Et donc, est-ce qu'on peut dire que, on va prendre en exemple un compositeur très connu, qui est Jean-Sébastien Bach, est-il un précurseur de l'improvisation?
Je ne sais pas si c'est un précurseur, parce que c'est pas lui qui a inventé les règles, lui-même a fait un gros travail pour référencer et comprendre les systèmes d'improvisation qu'il y avait à cette époque-là dans la musique baroque. On n'improvise pas de la même façon en baroque espagnol qu'en baroque italien, baroque français, baroque... Est-ce qu'il est précurseur? Je pense qu'il est dans la continuité. Bon, ce qui est sûr, c'est que l'histoire a démontré qu'il était excellent improvisateur et que souvent il y a certains de ses morceaux qui sont écrits et qui sont tirés de ses improvisations. Apparemment, il avait une mémoire suffisante pour se rappeler de ses improvisations. Il était amené à improviser souvent parce qu'il y avait les messes tous les jours et il pouvait pas, enfin, d'après ce que j'ai compris, qu'il pouvait pas produire assez. Donc beaucoup de ses messes étaient jouées à improviser. Donc, précurseur, je ne pense pas. Mais ce qu'on peut voir dans ce chiffrage, c'est ce que je vois dans le chiffrage baroque, c'est qu'il y a des ressemblances avec le chiffrage américain actuel, c'est-à-dire la nécessité de marquer les accords en laissant la liberté à tous d'improviser l'accompagnement et le thème. Alors, ce n'est pas organisé pareil. En chiffrage baroque qu'en chiffrage américain, mais je trouve que le principe est un peu la finalité est la même.
Oriane.
Oui, je pense qu'en fait aujourd'hui on a une vision de la musique segmentée entre des musiques qui seraient des musiques d'improvisation et puis des musiques figées, écrites. Je pense que en fait il y a vraiment à la base une tradition d'improvisation. Et ce sont peut-être les enseignements qui ont fait qu'on a voulu garder, qu'on a voulu formater en fait des façons de faire, et que du coup Bach évidemment est improvisateur, mais je pense que comme on n'a pas une capture de tous les musiciens de son époque et de son temps, on peut pas vraiment savoir si lui était vraiment différent. On a gardé de lui parce qu'il y a eu des choses qui ont été écrites, et comme disait Clément, en fait les versions qu'on a aujourd'hui de lui écrites, de telle étude, de telle chose, sont des versions figées d'un instant. Mais en fait, je pense que lui en avait fait des 1000 variations différentes. Donc, au même titre que Chopin, plus tard, etc., c'est difficile de savoir de son temps s'il a innové. Nous, on se rend compte qu'en fait, dans la marque de l'histoire, il y a quelque chose de particulier dans sa musique. Et ça témoigne aussi d'une grande capacité justement d'adaptation de ce qu'on appelle les cadences, tout ça, c'est-à-dire l'enchaînement des différents accords, de substitution d'accord, mais ça, j'imagine qu'on en reparlera tout à l'heure. En fait, voilà, le Bach, nous aujourd'hui, on en a une version assez figée, assez formatée, mais si ça tombe, le format était beaucoup plus vivant en fait de son temps.
Ça doit dépendre des pièces, parce qu'il y a des choses qui sont tellement organisées. Quand il fait, quand il écrit à plusieurs parties, et qu'il y a des canons ou des contrepoints comme
oui,
ça.
Tout à fait, oui.
Évidemment, ça peut s'improviser, mais le fait qu'il soit passé par la table pour écrire tout ça, il y a une espèce d'équilibre qui est une sorte d'équilibre parfait qui est difficile aussi à avoir en improvisation quand on improvise à plusieurs, parce qu'on peut distinguer, on peut trouver des différences entre improviser seul et improviser à plusieurs.
Tout à fait, oui. Ça c'est le truc important, c'est qu'à l'orgue, en fait, l'orgue est une simulation d'orchestre. C'est-à-dire que sur l'orgue, l'organiste, en fait, c'est assez marrant si un jour chacun a la chance d'aller voir un orgue d'église, comment ça se passe. Il y a des petites tirettes un peu partout qui chacune simule en fait un orchestre de chœur, un orchestre de différents instruments, de cordes, etc. Il y a une sorte de recherche d'imitation et de substitution à un orchestre dans l'orgue. Et ça va jusqu'à ce qu'il y ait que l'instrument soit conçu dans les formes les plus modernes comme un multi-instrument rassemblé en un seul. C'est-à-dire qu'on peut faire par exemple une ligne de basse au pied. On peut avoir un clavier par exemple avec un son qui va être un son qui ressemble à la, je sais pas, une trompette par exemple, un autre clavier qui va faire un son comme un ensemble de cordes. Alors évidemment, c'est un peu comme les premiers synthétiseurs de l'histoire, c'est-à-dire qu'on, évidemment, ça ne ressemble pas totalement à un orchestre de cordes, mais en fait, il y a une volonté des constructeurs d'orgue, des facteurs d'orgue. D'ailleurs, Bach était notamment quelqu'un qui était responsable de la gestion des orgues, de l'accordage, voire même peut-être de la construction, je sais pas si précisément, je m'en rappelle plus. Voilà, donc l'orgue était en même temps un multi-instrument rassemblé en un seul où l'instrumentiste a potentiellement la responsabilité d'arriver à faire comme si plusieurs instruments jouent ensemble.
Donc l'orgue a été mis aussi en valeur dans ce domaine, à savoir que actuellement il existe un concours d'improvisation pour orgue qui se déroule dans la cathédrale de Chartres, et il y a aussi dans le domaine de la pédagogie pour l'orgue, trois types d'improvisation qu'on enseigne aux jeunes organistes. Que vous avez donc l'improvisation liturgique, qui consiste donc à harmoniser pour une mélodie à vue lors des cérémonies. Il y a l'improvisation classique, qui est une mise en pratique pour les classes d'harmonie ou contrepoint et fugue, et une improvisation à l'orgue aussi pour les concerts qu'on enseigne donc aux jeunes musiciens, qui a été mise en place par des grands organistes tels comme monsieur Pierre Cochereau ou Marcel Dupré. Voilà. On va continuer, on va s'arrêter sur la période, on va dire, historique pour le moment, et on va commencer par écouter une première composition, donc une première interprétation donc de nous trois, avec une œuvre donc qui a été écrite par Oriane. Est-ce que tu peux nous en parler deux secondes?
Alors c'est un petit morceau que j'ai conçu pour mes élèves pour arriver à avoir une suite de notes qui soit très simple et en même temps qui ait l'élégance de quelque chose d'un peu plus grand. Pour faire en sorte que justement l'élève puisse être en capacité de créer, de raconter des choses avec peu de mots de vocabulaire, mais que c'est des mots de vocabulaire bien choisis qui font qu'on a l'impression de faire de la poésie. Donc c'est une tentative au sein d'un morceau d'arriver à faire simple et en même temps élégant. Voilà.
Donc, il a un titre?
Oui, c'est le chant d'essentiel.
Eh bien écoutez, nous allons...
Le chant d'essentiel.
Nous allons écouter cette première pièce, donc avec Clément à la contrebasse à cordes, donc Oriane au piano et moi-même à la clarinette. Thank you.
Vous êtes bien sur RBA FM Auvergne-Limousin.
Et entendu, c'est une version complexifiante, un peu plus compliquée, un peu plus complète de ce qui peut être fait.
D'accord. Alors, on continue donc sur l'histoire, un petit peu de l'improvisation. Donc, il faut savoir aussi que dans la continuité, le baroque a été un petit peu, on a parlé un peu du baroque, et que dans la continuité, le classique et dans le romantisme, le contemporain, bien entendu, nombreux compositeurs ont eu la perspective de pouvoir faire des domaines d'improvisation. Mais ça, c'est à découvrir par vous-même, par la lecture. Et on va arriver à l'élément essentiel, d'où, je pense, nos nombreux auditeurs ont l'occasion de découvrir et ont entendu l'improvisation, c'est dans le jazz. Alors, on commence par le jazz, l'improvisation du jazz. Qu'est-ce qu'on pourrait situer? Dans quelle époque et quelle année, entre guillemets?
Le jazz, pour moi, de ce que je connais, c'est que ça commence en Amérique. C'est une sorte de blues, quoi, une sorte de blues qu'on trouve en Louisiane et qui se transforme. Ce sont des chansons, voilà, comment je dirais, des chansons. C'est la population noire américaine qui invente ce style. Et après, bah, tous les Américains s'en emparent et ça fait plein de genres et de sous-styles, de sous-genres que je connais pas tout évidemment, mais voilà, moi ce que je dirais, peut-être que vous avez plus d'infos que moi. En fait, début du XXe siècle, hein, moi je dirais ça.
En fait, il y a quelque chose qui est étonnant. Bon, déjà, c'est l'une finalement des seules formes, c'est l'une des seules formes, si ce n'est la seule forme d'art vraiment émanant des États-Unis. Toutes les autres sont vraiment des emprunts à la culture européenne et autres. Donc, ça, c'est vraiment l'émergence d'un point de départ qui après a inondé le monde en entier, mais c'est vraiment quelque chose de très identitaire, de très très originaire des États-Unis, qui est un mélange en fait entre les musiques traditionnelles et folkloriques européennes, avec des mélanges africains, avec des mélanges aussi des populations autochtones indiennes, parce qu'on retrouve en fait beaucoup dans le jazz des modes, c'est-à-dire des ensembles de notes, des ensembles de façons de faire, d'associer les sons, qui viennent en fait de cultures tribales ou qui viennent de cultures, des cultures autochtones locales. Et en fait, effectivement, le jazz n'est qu'une émanation du blues, qui lui-même est en premier lieu une sorte de musique faite dans les champs, une musique d'esclaves, une musique de travail, pour s'accompagner parfois, pour trouver le rythme. On retrouve la même chose même un peu partout, hein, même au Portugal, dans le Três Montes, il y a des musiques de travail comme ça, où on sent que derrière, il y a des coups de pioche qui permettent de donner un rythme commun. Et c'est des musiques, des chansons pour se donner cœur à l'ouvrage, pour se donner un rythme en commun. Donc le jazz émane de ça. Il y a une anecdote qui est assez intéressante, c'est qu'en fait, quand on entend le blues, donc c'est un ensemble de notes et c'est l'accord, les ensembles de notes fondamentales en fait sont une sorte de renversement de ce que faisait la musique folklorique européenne. Alors si j'essaie d'expliquer un peu mieux, c'est que par exemple quand on prend un harmonica, donc il y a deux façons de le jouer. En soufflant, ça va faire un type d'accord. En aspirant, ça va faire un autre type d'accord inverse. Et en musique folklorique en fait européenne, l'essentiel de la musique se fait en soufflant, et qui correspond en fait à l'harmonica et l'accordéon. Voilà, c'est un peu le même genre d'instrument. Et en fait, en aspirant, ça fait vraiment un accord inverse. Ça fait quelque chose qui complète l'accord premier, mais c'est vraiment l'accord en soufflant qui est essentiel. Et en fait, dans le blues, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est comme si justement les Noirs américains avaient récupéré les instruments folkloriques européens et les avaient inversés. C'est-à-dire que pour eux, l'accord fondamental, il n'est pas en soufflant, mais il est en aspirant. Et donc, ça inverse totalement la façon d'entendre la musique et ça fait un mélange assez étonnant qui est le blues. En fait, le blues, c'est vraiment une sorte de réappropriation de la musique occidentale, européenne, en l'inversant. pour en fait quelque chose qui commence sur quelque chose de flottant. Le blues, c'est surtout au niveau de la septième note, une note qu'on appelle la septième, c'est un accord un peu flottant. En Europe, cet accord-là, au contraire, ça va être pas un accord principal, ça va être un accord, on va dire, secondaire. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant, même historiquement, comme si voilà, la population locale s'était réappropriée quelque chose, la manière de s'exprimer du colon.
Tu parles d'accord, tu me tends la perche, sur l'écriture jazz, entre guillemets. Tout à l'heure, on a parlé que du temps du baroque, il y avait une écriture chiffrée qui était existante pour les basses continues. Et le jazz possède aussi ce système d'écriture. Mais il y a une particularité, c'est que il y a, comment dire, une écriture avec des lettres. Est-ce que tu peux me dire un peu, nous expliquer à nos auditeurs un peu comment fonctionne ce chiffrage d'accords en jazz?
Eh bien, justement, c'est parce que ceux qui faisaient cette musique-là, le blues, le jazz, n'étaient pas des musiciens d'orchestre formés aux techniques classiques. Et donc, en fait, pour garder trace, se transmettre et partager les morceaux, les accords et tout ça, ils ont essayé de trouver des façons de faire qui simplifient et qui permettent de ne pas savoir lire les portées musicales utilisant le classique. Et donc, ils ont pris des points de repère. Ils ont pris l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, et se sont dit, tiens, le La, ça va être le A, le B, le Si, le C, le Do, le D, le Ré, etc., jusqu'à G. Et donc, en fait, à la place de marquer vraiment la note qu'il faut jouer, ils donnent, en fait, un nom d'accord, et cet accord-là, en fait, indirectement, décrit, en fait, l'ensemble des notes qu'on peut jouer à tel moment du morceau. Et donc, en fait, c'est quelque chose de plus large, parce que c'est sujet à interprétation. C'est un peu comme si, en fait, on disait, tiens, fais-moi du bleu. Et en fait, libre à la personne de prendre un bleu un peu violet, un bleu un peu tournant vers le vert, etc. Et donc, en fait, l'accord, la description, ce qu'on appelle là la notation américaine, en fait, c'est pas une manière de dire, tiens, tu dois faire absolument ça, ça et ça. Non, c'est de dire, tiens, tu dois faire un peu comme si on disait, tu dois faire un bleu, où tu dois faire un jaune, et libre à chacun en fait de décrire ce bleu ou ce jaune d'une façon différente. Donc ça laisse de la liberté. Et voilà.
D'accord. Et le chiffrage d'accord est utilisé pour les musiciens, c'est-à-dire le contrebassiste, il l'utilise. C'est un modèle de basse pour toi, quand tu joues à la contrebasse, quand tu vois l'accord. Tu utilises plus le chiffrage d'accords aussi, donc malgré tout.
Alors en jazz, j'utilise énormément la grille, les accords, le chiffrage d'accords. Dans un accord, il y a au moins trois sons. Et pour le bassiste, ces trois sons, ils n'ont pas le même poids. La note qui va donner le nom de l'accord, la fondamentale, fait autorité. Ça va, quand je vais jouer cette note, je vais stabiliser l'ensemble des musiciens qui jouent avec moi. En jouant la fondamentale, je stabilise la couleur. Et ça, c'est un peu comme le roi de l'accord. Et la reine, c'est sa quinte. Parce que la fondamentale et la quinte, quand ils ont un rapport physique même, qu'on peut regarder sur un oscilloscope, qui est extrêmement consonant. Donc, je vais favoriser, ça va être un peu comme des phares dans ma grille. Je regarde ces phares pour m'orienter. Et tout mon travail d'improvisation, ça va être de passer d'un accord à un autre, donc d'aller d'un phare à un autre. Et c'est là que je vais avoir des libertés, ou en tout cas des choix, des décisions à prendre. Parce que ce ne sont pas des libertés absolues. Si autour de moi, on fait une seconde mineure, do dièse, ou plutôt do, ré bémol, mi, fa, je ne peux pas prendre la décision tout seul de faire do, ré, bécard, mi, fa. Dans cet accord à trois sons, on a la fondamentale, la quinte et la tierce. La tierce est déjà considérée comme une sorte de dissonance. Et je peux m'en servir. Cette tierce, elle va donner la couleur de l'accord. C'est-à-dire que il y a deux grandes familles, c'est les accords mineurs qui vont sonner plutôt tristes et mélancoliques, et l'accord majeur qui va sonner plutôt joyeux, plein. Et donc, voilà, je peux jouer cette tierce, évidemment, j'ai le droit, mais ce n'est pas ça qui va stabiliser le mieux l'ensemble de la musique. Si j'utilise la tierce, moi, je vais mettre une note dans les graves qui fait plutôt partie des dissonances. Donc, je peux m'en servir, mais j'ai un poids, j'ai une espèce de levier sur l'ascenseur émotionnel de l'ensemble de la musique, à savoir, est-ce que je vais stabiliser l'orchestre ou est-ce que je vais plutôt déstabiliser l'orchestre, sachant que, d'après moi, la musique est une alternance de stabilité et d'instabilité, de consonance et de dissonance, est une alternance entre tristesse et joie pour que le cœur batte, quoi, hein, que ça soit pas un morceau qui serait uniquement construit sur de la tristesse, serait d'une mélancolie, sans fond. Il nous faut un repère pour pouvoir exprimer la mélancolie. Et pareil, il nous faut un repère pour pouvoir exprimer le majeur. Donc, moi, mon travail, c'est ça. Ça va être d'aller de phare en phare. Et suivant le style, alors en jazz, on aime beaucoup le swing. Sauf que la basse, elle fait boum, 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 boum. Donc, moi, je vais plutôt jouer ces noirs et utiliser le système du walking bass. Walk, c'est marcher, hein. Et walking bass, c'est la basse qui avance, la basse qui marche. Et je vais utiliser cette méthode. C'est pas la seule, parce qu'en jazz, on peut jouer aussi du bossa. Et là, il y a plus de rythme. Mais en swing, c'est des noirs. C'est une note sur chaque temps qui pourrait remplacer une sorte de grosse caisse qui changerait de note à chaque pulsation. Et quand c'est du bossa, en bossa, je vais jouer sur des doubles croches. Toutoum. 2-3-4-1, 2-3-4-2, et si c'est de l'afro-cubain, je vais m'appuyer sur la note précédente du temps. Ton, 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 ton. Et donc chaque style a son code, a son standard rythmique qu'il faut que je respecte pour respecter le style. Et je crois que j'ai à peu près tout dit concernant ces accords. Contrairement à la musique baroque, le bassiste, ou le claveciniste plus exactement, il va avoir la note fondamentale de l'accord, pas forcément, pas du tout. Il va avoir une note écrite, et après le chiffrage va lui dire quel est le renversement de l'accord. Par exemple, si c'est écrit un Do et que c'est marqué 5, ça veut dire que je joue l'accord dans sa note fondamentale, c'est-à-dire Do, Mi, Sol. Si ça avait été marqué 6-4, il aurait fallu d'abord commencer par une quarte et ensuite par une sixte, c'est-à-dire le dernier renversement. C'est le Sol, Do, Mi, le dernier renversement de l'accord, de l'accord majeur. Donc entre Sol et Do, une quarte, entre Do et Mi, une tierce. Et donc entre sol et do, il y a une 6-4, une quarte, et entre sol et mi, une sixte, plus exactement, pour être précis. C'est ça mon travail de bassiste.
D'accord. Mais t'as quand même une opportunité d'improvisation aussi.
Il y a toujours, et dans les deux cas, il y a une opportunité d'improvisation. Il y a des choix à faire pour passer d'un accord à un autre, et puis aussi choisir quelle est la note que je vais utiliser pour jouer l'accord. Parce que moi, à la basse, je ne peux pas vraiment jouer d'accord. C'est possible, à la contrebasse c'est possible, mais c'est vraiment pas adapté. Il faut que j'en choisisse une. Et c'est toujours sur l'accord de Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Si je joue Do, Do, je stabilise tout le monde. Le cœur est stable, tout va bien. Mais si je joue Mi, c'est tout à fait autre chose. On attend après que je joue autre chose. Je crée une instabilité. Alors que l'accord, lui, est majeur. Et plein, l'accord Do Mi Sol, c'est un accord de majeur. C'est il n'y a pas de tension comme un accord avec une quinte diminuée ou comme avec une septième majeure. Une septième, c'est une note qui va dissonner. Une septième majeure, une septième mineure, c'est une note qui dissonne. Et pourtant, si je joue la tierce, c'est déjà je crée une instabilité. Si je joue la quinte, c'est toujours moins stable que la fondamentale. Et rien qu'avec cette note qu'il faut que je choisisse sur ces trois, je vais créer tout un tas d'émotions. Et quand une grille est composée d'une multitude d'accords, 1, 2, 3, 4, parfois il y a des grilles à 10, 20 accords, même parfois plus. Et c'est tout le temps des choix à faire qui vont complètement influencer la couleur générale de la musique. Et le clarinettiste, le trompettiste qui fait le thème sera influencé. Donc ça va influencer ses ornementations, ça va influencer son rythme, ça va influencer son état d'esprit. Les Américains, ils parlent de mood, mais c'est ça, le tempérament, dans quelle psychologie on se trouve pour jouer telle ou telle musique. Et j'ai une grande influence qui n'est pas lyrique. Le clarinettiste aura du lyrisme, on va écouter son phrasé, pas seulement. Mais le bassiste a plus une charge de couleur que de phrasé. Évidemment, ce n'est pas absolu. Un contrebassiste qui n'a pas de phrasé est une patate. Et inversement, un clarinettiste qui n'aurait pas de rythme et qui ferait que du phrasé, il jouerait pas les choses dans le tempo, il n'aurait pas de swing, ça fonctionnerait pas non plus. En jazz, je parle. Et bien que je pense que chaque style de musique impose son swing et sa façon d'avancer la pulsation.
D'accord. Sur Oriane, avec le piano, qui est quand même un instrument, comment dire, essentiel, on va dire, avec la contrebasse dans un ensemble. L'idée d'improviser, parce que tu lâches complètement les accords quand tu joues, quand tu improvises, tu lâches tes accords. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes une fondamentale, ou tu as les accords qui sonnent dans ta tête, comment tu arrives à pouvoir jongler là-dessus? Bon, tu as la contrebasse qui te fait toujours la fondamentale aussi, mais voilà, comment tu travailles un peu là-dessus sur l'improvisation avec ton clavier?
Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant sur ça, c'est qu'effectivement, Clément vient de parler d'une sorte de rôle au sein de l'orchestre, au sein du groupe. En fait, le pianiste n'a pas du tout le même rôle que la contrebasse. Clément vient de parler de couleur. Alors, ça peut sembler étonnant, on parle de couleur, pourtant on est en musique. Mais en fait, l'analogie est profonde, dans le sens où en fait, chaque musicien, c'est un peu comme si il faisait une couleur particulière. D'ailleurs, quand on y réfléchit d'un point de vue physique, une couleur, c'est quoi? C'est une longueur d'onde, c'est une vibration. C'est une vibration avec des longueurs d'onde très courtes, c'est une vibration de très haute fréquence. Donc la musique, le son aussi, c'est une vibration. Donc selon que la vibration soit très longue, on a les rouges, les infrarouges. Très courte, on a les ultraviolets. En musique, c'est pareil. Quand on a une vibration qui est très lente, ça correspond à des notes graves. Une vibration qui est plus courte, ce sont des sons aigus. Donc il y a une analogie comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, moi, en tant que pianiste, je vais avoir plutôt tendance justement à viser des petites couleurs. Et le contrebassiste, des couleurs qui ont tendance à inonder le reste. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si par exemple je fais un jaune, qu'il y a un clarinettiste qui fait un bleu, la contrebasse va arriver, va faire un grand rouge. Ce grand rouge, il va faire quoi? Ben, il va faire que moi, mon jaune va se transformer en orange et que le bleu, en fait, il va se transformer en une forme de violet. Et donc, en fait, c'est ça qui se passe. C'est que quand Clément dit qu'il fait des notes fondamentales, là, vous comprenez qu'en fait, c'est effectivement fondamental. Le rôle qu'il a, ça va être de teinter la couleur de tous les autres. Et moi, en tant que pianiste, je dois faire en sorte de rajouter des choses qui sont dans le détail de couleur. C'est-à-dire que ce n'est pas à mon rôle, à moi, de révolutionner la couleur de tous les autres. Moi, je dois apporter du détail, un peu comme de la dentelle. Je dois faire en sorte que, justement, je ne prends pas le rôle du contrebassiste, je ne lui retire pas sa liberté de faire des choses fondamentales. Moi, je dois apporter des subtilités de couleur. Je dois arriver à amener des vibrations, à amener des transitions parfois, justement, plus rythmiques. Qui fait que je vais par exemple soutenir un clarinettiste. Le clarinette par exemple on peut un peu faire des accords avec une clarinette, mais c'est des techniques très spéciales et c'est très limité. Mais à la base, la clarinette peut faire uniquement des mélodies. Et en fait, donc ces mélodies-là, ce ne sont pas plusieurs notes en même temps, c'est une seule note à la fois. Alors que moi, pianiste, je peux en faire plein de notes à la fois. J'ai deux mains, je peux pratiquement faire une note par doigt, je peux pratiquement faire 10 notes en même temps, voire plus. Donc, Moi, le rôle du pianiste, ça va être, par exemple, j'entends une note, j'entends une couleur qu'a fait la clarinette, et je vais le soutenir, je vais amplifier, je vais répéter sa note, je vais, si lui, il a une phrase mélodique qui est montante, qui va dans les aigus, et je vais pouvoir faire le choix de, moi, au contraire, descendre, pour comme si je stabilisais vers le bas les choses, ou au contraire, l'accompagner en montant avec lui, pour soutenir son émotion d'ascendance. Sachant qu'en fait, cette question de descendre, de monter dans les graves et les aigus, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe quand quelqu'un parle et qu'il fait une phrase affirmative ou une phrase d'interrogation. Si une phrase d'interrogation et que moi je réponds « Ah oui, n'est-ce pas ?» Voilà, j'amplifie en fait la question qui est posée. Si lui a une phrase qui descend, ça ressemble beaucoup à une affirmation dans le langage courant. Et donc effectivement, moi je peux soutenir cette affirmation. « Ah, ah oui, effectivement. » Voilà. Et cette chose-là en musique, c'est nos moyens à nous de raconter des histoires, c'est d'appuyer, soutenir, relativiser, etc. Et donc, voilà, les rôles sont partagés. Les rôles sont partagés, des rôles de soutien, des rôles de, d'interruption aussi. Hein. On peut très bien imaginer qu'un musicien fasse une phrase qui tente quelque chose et un de notre musicien l'interrompt ou casse le rythme, ou, etc.
D'accord. Quelque chose de la conversation quand on improvise à plusieurs. Ouais. Dans certaines musiques, on peut vraiment converser. Oui.
Ouais. On fait même des exercices de questions-réponses parfois. Avec vraiment, chacun prend une mesure, c'est un ensemble de temps. L'un propose quelque chose et l'autre lui répond d'une façon musicale. Donc en fait, oui, effectivement, il y a des liens très proches avec la conversation.
On peut dire qu'aussi, improviser demande du travail. C'est vraiment préparé quand on voit les concerts grands groupes, etc. Il y a quand même une préparation d'écoute, une préparation
de... Ne s'improvise pas, en fait. C'est-à-dire que c'est comme le langage. Là, je parle, tout le monde parle. Il nous a fallu des années en tant qu'enfant pour arriver à capter le sens des mots prononcés par les adultes, arriver à les prendre pour soi. C'est-à-dire que personne, quand on est enfant, nous dit « Alors, le mot aspirateur, c'est un appareil mécanique utilisant l'électricité. » Non, on a tendance tous à comprendre les mots qu'on entend par le contexte. Dans quelle phrase, dans quel contexte les choses sont dites. En musique, c'est pareil. L'improvisation, c'est une affaire de création de contexte. C'est une question de deviner ce que va dire l'autre. Donc, on apprend notre vocabulaire musical beaucoup par l'écoute. Ce qui est essentiel, avant tout, c'est pas de dire, comme pour un enfant, c'est avant tout d'écouter l'enfant. Il apprend le langage par l'écoute. Il teste après des choses avec sa bouche, mais avant tout, il est silencieux longtemps. Il est silencieux longtemps, il écoute, et à un moment donné, il sera assez suffisamment maître des sons qu'il a entendus et tenté de reproduire pour qu'il commence enfin à s'exprimer.
Puis on s'exerce.
Oui.
Pour apprendre à parler, c'est long. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête jamais. Tu parlais des enfants, moi j'ai l'impression de continuer d'apprendre à parler. Et que tous les jours, je progresse en langue française. Et tous les jours, je travaille mon improvisation en travaillant mes arpèges, mes gammes, en essayant de comprendre les modulations, en essayant de comprendre aussi la tonalité, de toutes ces notions dont j'ai besoin pour pouvoir jouer, développer l'écoute. On apprend à écouter. Il ne suffit pas de trouver que l'accord est joli, il faut trouver ses notes.
Et effectivement, il y a une analogie encore au langage, c'est-à-dire que faire de la poésie, ou faire un discours didactique, ou faire un discours politique, ou faire un discours qu'on doit transmettre à un enfant, on va sélectionner ses mots, on va s'entraîner. Si on, par exemple, on doit formuler un langage technique pour décrire les fonctionnalités d'un appareil pour un ingénieur, ce ne sera pas le même langage. Donc il y a tous des types d'entraînement, des façons de faire qui sont différentes, et effectivement pour nous en musique c'est à peu près l'équivalent de faire de la musique cubaine, de faire de la musique afro-américaine, de faire de la musique classique, de faire du baroque, etc. Ce sont des façons de formuler qui demandent de l'entraînement. Elles sont pas innées, au même titre que ce qui n'est pas absolument pas inné, c'est en soi de faire de jouer du piano, de jouer de la guitare, de la clarinette, tout ça. C'est des positions de main, c'est des façons de faire qui sont pas évidentes. Et ça, pareil, encore une analogie. Si moi, je dois parler une langue africaine à clic, par exemple, qui intègre dedans des choses comme ça, il y a des langues qui sont comme ça, qui intègrent. Moi, européen, si je ne me suis jamais entraîné à faire ça, j'aurais absolument du mal, en fait, à faire ces langues-là. Au même titre, certains sons dans le langage en anglais. Notre façon à nous, français, de faire les R anglais, ça ne nous est pas si évident que ça. Donc ça demande des entraînements. Si moi, français, je dois essayer de converser avec un anglais, on est très réputé, nous, français, pour avoir du mal à transcrire exactement les sons qu'on entend pour le temps dans la langue anglaise ou autre. Et donc,
c'est pas faute de l'écouter, en plus.
C'est pas faute de l'écouter, mais...
C'est pas tout, ouais.
Donc en musique, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a entendu non plus des heures et des heures de musique cubaine qu'on va savoir faire de la musique cubaine. Par contre, si on veut faire de la musique cubaine, c'est essentiel d'avoir écouté pendant des heures et des heures.
Ah oui, il faut commencer par ça.
Il faut commencer par ça.
Voilà. L'écoute. On va passer au deuxième morceau. Alors, c'est une originalité. On va dire que ça a été monté là, aujourd'hui, l'idée. Donc, c'est le thème de la lettre à Élise de Beethoven, mais sous une version un peu, on va dire, améliorée, hein, même un petit peu, on va se laisser aller dans ce domaine musical. Et donc, dans l'écoute de ce morceau, vous aurez l'opportunité donc de reconnaître le thème, mais qui sera interprété d'une manière, tango, en version tango. Après, il y aura une version donc blues, swing.
D'abord, il y a une version qui est un peu musique cubaine.
Et musique cubaine, voilà.
D'Amérique latine. Et vous voyez, en fait, là, il y a différents styles, différents pays, différentes personnes. Donc, c'est un peu comme si on traduisait, en fait, quelque chose qui est dit dans une langue, dans une autre langue musicale.
Donc, on va se permettre d'écouter ça, toujours avec le trio. Donc, Auriane au piano, Clément à la contrebasse et moi à la clarinette. Donc, lettre à Élise, mais une version, on va dire, un peu plus développée. Thank you. toujours sur RPA FM Auvergne Limousin.
Nous avons la chance d'avoir avec nos côtés. Oh non, je t'en prie. Simplement, donc, c'est que je voulais citer donner ma petite citation que j'ai trouvée sur une étiquette de thé que Oriane m'a offert aujourd'hui. Donc, c'est comme quoi, des fois, on ne sait jamais. Hein. Comme il me dit, tiens, ça c'est venu vers toi. Donc, les battements de votre cœur sont le rythme de votre âme.
Oriane et Clément, donc, je vous remercie pour votre participation à cette émission qui était dédiée à l'improvisation. Amis musiciennes et musiciens amateurs, se termine donc notre émission. Nous allons conclure par un morceau qui se prénomme Afro Blues. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous à la trompette Solal qui interprétera donc le thème. A très bientôt sur La Petite Note du Voisin. Thank you.